Tendristi Center.
Un health center.
Alors, bien entendu,
centre de salut.
Vous avez vu que nous avons nos différentes
rendez-vous sur le site QX1.
Mais également les
brochures, ressources, cartes des maraudes.
À une république laïque. Voilà, donc
et
je tenais
à.
Je vais vous lire un affaire passée. Ils sont coutumiers de ces manipulations politiques. Parler de réforme quand il s'agit de destruction, de plan social quand il s'agit de licenciement, de démocratie quand il s'agit d'arbitraire, et donc parler de laïcité quand il s'agit de mesures.
Bonjour, voilà, bien, c'est la NC13 qui est au micro pour ce mercredi, pour parler principalement de la situation internationale, mais on ne se limitera pas à ça. Donc c'est ici au micro, ben, il y a Émilie et puis Charles.
Bonjour voilà. Tout le monde.
Voilà. Donc sur la situation internationale, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est dans une situation véritablement historique, où le meilleur peut arriver, comme le pire peut se perpétuer et s'amplifier. Le pire, ben, ce serait la poursuite de l'impérialisme nord-américain et européen sur le reste du monde, la domination par les guerres, qui permettrait au grand capital de continuer à assécher la planète, à la fois au niveau humain et au niveau même environnemental. Puis le meilleur, c'est ce qui peut se produire dans des pays où les peuples se révoltent. Alors évidemment, la première pensée qu'on a, c'est avec l'Afrique, où tous les jours, il tombe une nouvelle qui est porteuse d'espoir, même si, en soi, elle n'annonce pas la révolution mondiale. Enfin, ce matin, je lisais que le Zimbabwe renonce à la Banque mondiale pour emprunter et veut faire appel aux BRICS. Alors, comprenons-nous bien, les BRICS, ce n'est pas forcément le modèle de société socialiste dont on rêverait pour notre planète, mais c'est une alliance qui, quand même, se fait contre l'impérialisme du dollar. Et donc, ce que souhaite le Zimbabwe à travers ça, c'est pouvoir emprunter, se développer indépendamment des intérêts des multinationales internationales qui sont en Afrique et dans le monde entier. Hier, c'était les auditeurs l'auront vu, mais l'intervention du Burkina Faso à l'ONU, ben, c'est quand même un vrai plaisir, quoi. Le gars, il commence, d'abord, il est en boubou, ce qui n'est pas rien, dans une période où on veut interdire les abayas en France. Arriver en boubou à la tribune de l'ONU, alors que normalement la règle d'or c'est costard-cravate ou costard de papillon, là on arrive en boubou et il commence par dire quoi ? À rendre hommage à Fidel Castro, à Che Guevara, à Sankara, à Lumumba et à Malcolm X, enfin tous ces dirigeants que l'impérialisme a assassinés ou a tenté d'assassiner. Et il réaffirme dans son intervention la volonté de l'Afrique de s'en sortir, d'être souveraine, et donc on en revient aux bases du panafricanisme. Et d'ailleurs, ça prolonge ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé dans notre pays. En disant cela, est-ce que nous sommes optimistes BA et à dire qu'un coup d'État égale une révolution armée du peuple. Bien sûr que non. Mais enfin, il faut réfléchir quand même que quel choix ils ont les Africains si vous voulez sortir de ce cycle de dictateurs corrompus soutenus par la France militairement et financièrement. Les élections en Afrique, il faut être Macron pour croire que ça sert à quelque chose. Enfin, c'est soit quand il dit ça, Macron, il parle au Niger du président démocratiquement élu, soit il se fout du monde, soit il connaît rien à l'Afrique. Les élections, il n'y a rien de plus fantoche. Avec des pays où quand même la répression a frappé depuis les indépendances tout ce qui se rapprochait d'un mouvement de progrès. Et donc, on n'est pas en état, et nos copains africains nous le disent bien, on n'est pas en état en Afrique, avant ces coups d'État-là, d'avoir des forces progressistes qui peuvent gagner le pouvoir par les élections, en tout cas dans la majorité des pays africains. Parce qu'elles sont réprimées, les dirigeants sont en prison quand ils n'ont pas été torturés ou assassinés et contraints à l'exil. Donc le seul corps constitué qui pouvait renverser ces dictatures corrompues, chaque fois dans ces pays-là, ça a été l'armée. Évidemment, maintenant, on ne va pas s'en remettre ni aux généraux, ni aux colonels qui dirigent. Et que la question de la transition, ça a duré, elle est posée. Et puis que, comme le dit la dynamique unitaire panafricaine avec qui l'ANC coopère, la réponse est dans les mains du peuple. C'est-à-dire que c'est vraiment des mouvements populaires qui vont s'affirmer maintenant que dépendra la nature du changement et afin qu'on ne retombe pas de Caribansi là. Je voudrais dire un mot parce que sur la question de la Russie et de la Chine, derrière nos dirigeants font semblant de voir la main obscure qui dirige ces coups d'État. Si on écoute effectivement notre gouvernement, la presse, et même parfois malheureusement des forces qui disent être de gauche, ce serait la Russie qui aurait fomenté le coup d'État au Niger, ce serait la Russie qui serait derrière ce qui se passe au Gabon. D'abord, c'est donné beaucoup de force et d'influence à la Russie, qu'elle n'a pas forcément. Deuxièmement, c'est prendre les Africains pour des imbéciles. Voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Africains aient en tête de sortir d'un impérialisme pour plonger dans les bras d'un autre pays dominateur. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut écouter la conférence de presse d'Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et je parle du Mali exprès parce que le Mali, c'est un pays où nous, on a un parti frère là-bas qui s'appelle le parti Sadi, qui a maille à partir avec la junte, dont le dirigeant est obligé de s'exiler. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément le régime que l'ANC soutiendrait spontanément. Mais qu'est-ce que dit Abdoulaye Diop? Il dit, mais enfin, vous nous prenez pour qui? Vous nous dites qu'il y a des dangers avec la Russie et la Chine, vous nous prenez pour des imbéciles, vous croyez que nous, on va céder notre souveraineté à un autre? Non. Et pour le moment, force est de constater que les bases militaires en Afrique et dans le reste du monde, elles sont soit militaires, soit françaises, soit anglaises, qu'il y a aussi une intervention des fondations allemandes, mais qu'il n'y a pas de fondation de base militaire russe ou chinoise en Afrique. Et deuxièmement, il faut faire confiance au peuple, d'être capable de s'en sortir tout seul et de ne pas vouloir se soumettre à une nouvelle puissance. Donc, voilà. Quand j'entends dire Macron, mon Dieu, l'Afrique va s'effondrer sans nous, peut-être le capitalisme français va souffrir, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique ne s'effondrera pas. Au contraire, parce que ce qu'il faut poser dans cette situation-là, et que malheureusement, il n'est pas beaucoup posé dans le débat, c'est la question de l'impérialisme. C'est combien de milliards ça rapporte l'impérialisme français en Afrique. Je ne parle même pas des soldats, je ne parle même pas du franc CFA, qui était en soi un scandale, mais des pillages qui sont faits des richesses africaines. Dans cette fameuse conférence de presse d'Abdoulaye Diop, qu'on retrouve sur YouTube facilement, le ministre chiffre, là, qu'est-ce que ça veut dire dans l'extraction des richesses maliennes, de bénéfices pour la France et de coûts pour le Mali. C'est ça la question centrale. Et donc, oui, que l'Afrique aujourd'hui se révolte, se réveille pays par pays, eh bien, que ça aboutisse, comme ça vient d'aboutir au départ des soldats français du Niger et de l'ambassadeur, après que Macron ait dit non, 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 on ne partira pas et on restera là, eh bien, ça peut être, évidemment, c'est positif. Que dans les rues du Gabon, on voit des gens danser parce que Bongo s'en va, bien sûr qu'on sait que celui qui vient à sa place, c'est un mec du Sérail. Mais sauf qu'il y a un verrou qui a sauté. Après, il appartient au peuple gabonais de faire sauter les autres verrous et de prendre eux-mêmes le pouvoir. Donc voilà, ça c'est l'aspect positif des choses. L'aspect inquiétant, ben, c'est ce qui continue de se passer en Ukraine. Alors, avec tous les jours, bon, là aussi, où on apprend le cortège de mensonges de part et d'autre. Et puis là, ce qui est inquiétant, c'est jusqu'où l'impérialisme est prêt à aller. Il y avait un général américain qui avait dit il faudra tenir jusqu'au dernier Ukrainien. Là, c'est ce qu'on est en train de voir, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on arme, quitte à ce que les gens meurent sur place. Et il semblerait bien, alors c'est encore à vérifier, parce que moi, je suis toujours très prudent quand je vois ces informations-là, mais que quand même les premiers soldats étrangers, notamment allemands, se sont fait prendre dans une attaque en Ukraine contre les Russes. Alors là aussi, hein, on n'a pas d'angélisme. De toute façon, la guerre, c'est de toute façon une mauvaise chose. La question n'est pas de soutenir Poutine ou la Russie. La question, elle est de que les peuples arrivent à la paix. Et l'OTAN, aujourd'hui, c'est le facteur de guerre. C'est lui qui fournit les armes. C'est lui qui pousse aux guerres. Je rappelle que quand même, tour à tour, la Chine, le Brésil et un certain nombre de pays africains ont fait des plans de paix qui ont tous été refusés par Biden et par Zelensky, alors que Poutine disait « moi je suis prêt à en discuter ». Je ne dis pas que Poutine était sincère, honnête, etc. Mais au moins, lui, il avait dit qu'il était prêt à en discuter. Là, l'OTAN et l'Ukraine ne lui ont pas laissé le choix. Donc ça, c'est l'aspect inquiétant. Comme est inquiétant ce qui se passe en Asie et dont on ne parle pas beaucoup. Pour avoir eu la chance, parce que c'est une chance, d'avoir participé à la conférence mondiale anti-impérialiste de Séoul. La conférence mondiale, la plateforme mondiale anti-impérialiste, c'est une plateforme qui aujourd'hui rassemble des forces progressistes de, je ne sais pas combien, mais au moins 60 pays dans le monde maintenant. En tout cas, une trentaine en Afrique. La majorité des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Asie, des forces des pays d'Europe, etc. Donc il a fait une conférence à Belgrade, une à Paris, une à Caracas et qui en a fait une à Séoul au printemps dernier, qui était juste avant le G7 d'Hiroshima et où nous sommes allés d'ailleurs à manifestation à Hiroshima contre ce G7 et les bombes qu'ils promettaient. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce qui se passe en Asie? D'abord, c'est que les États-Unis programme une alliance militaire à trois, Corée du Sud, Japon, États-Unis, dans un contexte où le Japon, qui n'avait pas d'armée et qui avait l'interdiction de s'armer dans sa constitution depuis 1945, eh bien, ils viennent de changer leur constitution pour pouvoir aussi s'armer. Dans un contexte où l'OTAN demande à ses pays membres d'avoir un budget militaire au moins égal à 2% du PIB. Et donc, dans ce contexte-là, il y a cette alliance à trois, et surtout, il y a de fait, même si ça ne porte pas ce nom-là, la perspective de création d'un nouvel OTAN, en tout cas d'une nouvelle alliance militaire internationale dans les pays d'Asie. Alors, je rappelle que l'ONU interdit les alliances militaires dans sa charte, et que donc, de ce point de vue-là, l'OTAN n'aurait jamais dû se créer en 1949. Mais là, non seulement il y a l'OTAN, mais le projet des États-Unis, c'est d'en créer un deuxième dans l'Asie, sous prétexte de, mais évidemment, les droits de l'homme, puisqu'on le sait très bien, aux États-Unis, les droits de l'homme sont respectés, et en Chine, ils ne le sont pas. Voilà, ça, c'est l'analyse classique. Sous prétexte de Taïwan, de Hong Kong, etc., comme si, comme je le disais avec des camarades chinois de Taïwan que j'ai rencontrés à Hiroshima, ils me disaient, mais vous vous rendez compte, ils veulent envoyer des bateaux militaires croisés dans les mers entre Taïwan et la Chine. Taïwan qui est une île au large de la Chine. C'est un peu comme si nous, demain, les Chinois venaient envoyer des bateaux militaires entre Marseille et la Corse. C'est du même ordre, on leur dit, mais de quoi ils se mêlent? la Corse le fait. C'est un problème franco-français ou corso-français. C'est certainement pas un problème chinois, ni de l'ONU, ni de... Eh bien là, on en est là pour Taïwan et pour Hong Kong. Et donc, c'est évidemment un prétexte pour viser les Chinois. Alors, pas parce que les Chinois, comment dire, ils ne seraient pas gentils ou je ne sais pas quoi. Ce qui est en jeu, c'est la domination économique du monde. La Chine, elle prend des marchés, elle se développe. On peut, selon comment on considère, c'est devenu la première économie mondiale. Elle a des réserves monétaires énormes et ça menace le capitalisme nord-américain et européen. Et donc, du coup, il faut absolument éliminer ces conquérants dangereux. Et jusqu'où est prêt à aller l'impérialisme pour cela ? Eh bien, c'est la question, voilà. C'est l'autre revers de la monnaie, hein, de la médaille. Et d'un côté, tout ce qui est positif comme lutte contre l'impérialisme, je n'ai pas parlé d'Amérique du Sud, mais on pourrait aussi dire tout ce qu'il y a de positif en Amérique du Sud de ce point de vue-là. Et de l'autre côté, cette volonté réaffirmée de l'impérialisme de s'affirmer. Donc face à cela, nous, Français, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'on doit faire ? Évidemment, on doit faire. On ne peut pas accepter que le monde y plonge dans le chaos, dans la guerre, parce que c'est quand même le danger qui nous menace devant tout ça. Je crois que la première tâche qu'on a, nous, c'est de combattre notre propre impérialisme, celui de la France. Alors, qui se manifeste en Afrique, ça c'est évident, et j'y reviendrai, mais qui se manifeste aussi en Europe avec l'Ukraine. Imaginez que la France, elle le dise demain, ce qu'elle avait fait en Irak d'ailleurs. Bon, c'est fini, nous on livre pas d'armes, on veut un cessez-le-feu. Ça ferait un coup porté à la guerre quand même. Et ça obligerait, sans doute, en tout cas ça aiderait beaucoup à ce que Zelensky et Poutine s'assoient face à face pour discuter. Là, la France, elle a choisi la voie exactement contraire. En Afrique, il y a d'abord la question du franc CFA. Comment voulez-vous qu'un pays soit indépendant, véritablement, quand il ne maîtrise pas sa monnaie ? Et ça, c'est le cas de 14 pays d'Afrique continentale et d'un 15e qui est les Comores. Avec 14 pays, le franc CFA, et dans le 15e, le franc comorien. Donc les pays africains, notamment ceux où les juntes militaires ont pris le pouvoir, remettent fortement en cause cette question du franc CFA et il est à souhaiter et à espérer qu'on arrive à s'en débarrasser. Mais les pays africains y arriveront d'autant plus facilement qu'en France, nous, hommes et femmes de progrès, on se bat sur cette question-là. On prend en compte cette question du franc CFA. On dit que ça suffit de stocker les stocks d'or des pays africains ici en France, de mettre la monnaie à Bordeaux et à Chamalières. Mais voilà, il faut arrêter ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les soldats français. Il y en a 1000 qui vont se retirer du Niger, et c'est tant mieux. Mais il y en a encore, je ne sais pas le nombre exact, mais c'est un peu plus de 30 000 soldats français en Afrique qu'il y a aujourd'hui. Et des bases militaires qui interviennent à tout moment sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Donc ça, il faut que nous, on puisse dire fortement au gouvernement français, retirez vos troupes d'Afrique, voilà, aux côtés de nos amis africains. C'est notre tâche prioritaire. C'est notre tâche prioritaire. On l'entend peu dans le débat en France. On l'entend peu dans ce qui se proclame de gauche en France. Encore ce 21 septembre dernier, devant la mairie, on n'était pas nombreux pour dire stop à l'impérialisme et oui à la paix. Et pourtant, c'est le combat prioritaire de notre époque. Je rappelle que pour l'armement militaire, la France vient de programmer 413 milliards de dépenses. On n'a pas d'argent pour les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour les écoles, on n'a pas d'argent pour les services publics, on n'en a pas pour développer l'emploi, mais on aurait 413 milliards pour l'armée. C'est le même gouvernement d'ailleurs qui vient de passer des lois pour modifier profondément Pôle emploi qui était déjà une modification honteuse de ce qu'était la NPE et la CEDIC. Là, on vient de passer à France Travail, rien que le mot dit tout, quoi. On ne parle plus d'emploi, on parle de travail, c'est-à-dire que vous allez accepter n'importe quel travail dans n'importe quel emploi. Et on parle de France Travail, ça veut dire que derrière, vous voyez la connotation raciste et nationaliste qu'il y a. Et puis, donc, ce même gouvernement qui attaque l'emploi à travers France Travail, qui attaque le logement. Vous avez vu la dernière loi qui vient de passer pour faciliter les expulsions de locataires en difficulté de paiement. Ce même gouvernement-là, qui le fait parce qu'il dit qu'il n'y a pas de sous, etc. Eh bien, voilà, ce même gouvernement, il est prêt à dépenser 413 milliards. Et là, c'est lutter aujourd'hui pour la paix, c'est aussi lutter pour que chaque argent dépensé dans ce pays le soit pour le progrès social, pour l'emploi, pour les salaires, pour les services publics, et non pas pour l'armement. Et donc c'est un peu la tâche prioritaire que nous avons, en tout cas, en ce qui concerne la ANC, c'est là-dessus auquel on s'attelle. Voilà, donc ça, c'était pour démarrer l'émission. Je vous propose d'écouter un morceau de musique pour faire une petite pause, et après, on reprendra.
Toi, la fille au chapeau large, la fille qui souriait au garçon. Ton bateau s'éloigne au large, laissant derrière toi tes passions. Plus d'un seront en larmes quand ils s'apercevront qu'ils étaient tombés sous ton charme à en perdre la raison. Toi, la fille rebelle, fière et insoumise, éprise de liberté, qui t'interdit d'aimer. Tu sais qu'au fond de toi, ta vie de solitude, le prix de ton combat, notre liberté sans gratitude. Une meule de foin se souviendra de tes formes tout au long du mois de juin, quand les garçons en uniforme ils tournaient autour de toi tels des papillons de nuit, partageant tes joies mais fuyant tes ennuis. Toi, la fille rebelle, fière et insoumise, éprise de liberté, qui t'interdit d'aimer. Tu sais qu'au fond de toi, ta vie de solitude, le prix de ton combat, notre liberté sans gratitude. La bataille y est finie, sous un arbre tu es endormi. La brise caresse tes cheveux, sur tes lèvres un sourire heureux. De ton cœur si souvent égratigné, qu'une balle vient de déchirer. Coule une perle de sang, et à la terre tu en fais un présent. Toi, la fille rebelle, fière et insoumise, éprise de liberté, qui t'interdit d'aimer. Tu sais qu'au fond de toi, ta vie de solitude, le prix de ton combat, notre liberté sans gratitude.
Et voilà de retour après la pause.
Alors, moi, j'aurais une petite question à te poser, Charles. C'est quoi un petit peu les prochains rendez-vous de la plateforme anti-impérialiste ?
Alors, bonne question. Alors, en fait, pourquoi on a des rendez-vous de la plateforme ? Elle s'est constituée à Paris il y a 2 ans maintenant. Au lendemain de la guerre en Ukraine, on s'est dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe ? C'est au-delà de la guerre Russie-Ukraine, on a compris de suite que... Enfin, ceux qui ont initié la plateforme ont compris de suite que ce qui se passait, c'était bien plus grave qu'un conflit aux portes de l'Europe entre deux pays. Et donc, on a vite vu que ce qui était en question, c'est une question de domination du monde, d'où le nom de plateforme mondiale anti-impérialiste, parce qu'on s'est dit que l'impérialisme allait être à l'offensive dans tous les pays du monde. Il était déjà, là, que ça allait s'accentuer à cause de la situation économique, quoi. À cause, justement, de ce que je disais, de la montée en puissance de la Chine. Parce que vous voyez, depuis le début que la guerre en Ukraine a démarré, les médias, très régulièrement, ils nous parlent de la Chine, alors que la Chine, elle est pour la paix, elle n'est pas dans la guerre, mais on nous parle de la Chine comme si c'était un belligérant, et on ne nous parle pas des pays de l'OTAN qui envoient les armes. Donc, ça nous a amené à avoir des conférences internationales dans plusieurs endroits du monde pour voir comment l'impérialisme se manifestait dans ces endroits-là. Alors, ça ne surprendra personne si je dirais qu'on a commencé par Belgrade. Belgrade qui est vraiment le symbole d'un pays qui a été détruit par l'OTAN, par la guerre des Balkans, avec une Allemagne qui a reconnu la Croatie alors que la Yougoslavie existait encore. C'est-à-dire un OTAN qui a travailler au démantèlement d'un pays souverain et qui a réussi son coup, puisque aujourd'hui, c'est plusieurs États indépendants et dont on peut se demander s'ils sont viables quand on voit leur dimension. Donc la première conférence a eu lieu en Croatie. La deuxième a eu lieu à Caracas. Je crois que ce n'est pas la peine de faire de dessin sur les sanctions qui tombent sur le Venezuela et au-delà sur Cuba et sur l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, dès qu'ils pointent une oreille qui va pas dans le droit fil de ce que pensent les États-Unis. La troisième a eu lieu à Séoul, donc Séoul, Corée du Sud. La Corée, c'est un pays qui est balafré, coupé en deux. C'est un pays qui, normalement, a une seule langue, qui n'a jamais été colonisateur de qui que ce soit. Et quand ils se sont libérés des Japonais en 1945, ils se sont dit « Ouf, on est tranquille ». Et boum, il y a les Américains qui leur sont tombés dessus. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, proportionnellement à la population, il y a le double de militaires qu'en France. Alors déjà, il y en a trop en France, alors vous pensez en Corée du Sud. Et au-dessus d'eux, il y a 50 000 soldats américains qui gouvernent l'armée et le pays. Vous ne pouvez pas passer la frontière. Si vous voulez aller en Corée du Nord, c'est impossible d'abord parce qu'il y a une grille et de deux parce qu'il y a des GI américains qui surveillent la frontière en permanence. Donc la troisième conférence a eu lieu à Séoul avec des témoignages des gens des Philippines, des gens des autres pays d'Asie qui expliquaient comment l'impérialisme nord-américain et européen se manifestait chez eux. Donc la prochaine, elle aura lieu en Guinée-Bissau. Alors, quand exactement, on ne sait pas. Ce sera au printemps 2024, ça c'est sûr. Mais la date n'a pas encore été arrêtée. Pourquoi la Guinée-Bissau ? Parce que justement, le parti d'Amical Cabral vient de gagner les élections, c'est historique. Alors, vous voyez, il n'y a pas que des coups d'État en Afrique, il y a aussi des élections quand on arrive à ce qu'elles soient à peu près libres. Et il est sur la même ligne que les autres pays qui se révoltent. Parce que vous comprenez bien que faire une conférence internationale, ça suppose que l'État, non pas nous soutienne, mais qu'on puisse avoir des garanties qu'on ne sera pas, la conférence ne sera pas foutue en l'air par les gouvernants. Donc la prochaine est en Guinée-Bissau. Et donc pour voir un peu... Alors, on parle de l'impérialisme français en Afrique parce qu'on est français. Mais je voyais ce matin un article de quelqu'un qui disait « Au Niger, les Français s'en vont, mais les autres restent. » Il ne faut pas oublier qu'au Niger, il y a une forte présence américaine aussi. Et puis, le celle d'après aura lieu au Liban. Si on avait eu le choix, on l'aurait faite à Gaza, mais c'est évidemment impossible de la faire à Gaza. Donc au Liban, par rapport au Moyen-Orient et la situation là de l'impérialisme, dont le premier représentant, le premier vecteur, c'est Israël. Voilà. Donc voilà les rendez-vous qui sont prévus. Entre-temps, en ce qui concerne la France, l'ANC a une... On fait notre fête nationale. Alors, avant, plusieurs années, on a fait la fête nationale de l'ANC ici, dans les Bouches-du-Rhône, à Gémenos, à l'usine Scopti. Cette année, ben, pour des raisons diverses, notamment de développement ailleurs que dans les Bouches-du-Rhône, parce que c'est plus central, parce que c'est Paris, on va la faire à Paris. On va la faire le 18 novembre à l'espace Mandela en Seine-Saint-Denis. Et le 19, elle sera suivie d'une réunion internationale des organisations qui sont progressistes dans le monde. Et donc là, ben, ce sera l'occasion de mettre justement la dernière main à la préparation de la conférence. Pas la dernière main, mais de bien affiner les choses concernant les prochaines conférences internationales. Donc le 19 novembre, oui.
Merci pour ces explications. Moi, j'aurais encore d'autres choses sur lesquelles je voudrais avoir quelques informations. C'est face à ce constat d'escalade vers la guerre et au vu des échanges que vous pouvez avoir avec la plateforme internationale, qu'est-ce que fait l'ANC au plan national ou au local en France pour répondre à ces enjeux et...
Alors, on n'est pas assez nombreux pour faire beaucoup. Mais on est assez motivé pour faire au moins un peu. Et on est, je crois, sans orgueil, sans toute modestie, je pense que le rôle de l'ANC depuis des mois, ça a été d'alerter et de faire bouger les choses dans les consciences sur la militarisation de l'économie. Pendant tout le conflit sur les retraites, toutes les manifs, on était présents avec une banderole « Non aux guerres impérialistes » avec d'autres slogans. Et à chaque fois, en faisant signer une pétition, « Non à la guerre, non à l'argent pour la guerre, oui à l'argent pour la paix et le progrès social ». On a obtenu comme ça des centaines de signataires. Alors, de signatures. Je parle là dans les Bouches-du-Rhône. Il y a eu d'autres démarches ailleurs, mais restons déjà sur les Bouches-du-Rhône. Donc, je pense qu'effectivement, on a contribué à ce que quand même la question de la paix, elle... commence à prendre un peu plus d'ampleur dans le débat national. J'en veux pour preuve deux débats qu'on a fait avec le mouvement de la paix hein, en commun. On en a fait un au Festival de la Belle Rouge cet été à Saint-Amaroche-Savine. Et on en a fait un autre à la fête de l'UMA en septembre. Je pense que là, quand même, on arrive à faire prendre conscience de ces fameux 413 milliards. Aujourd'hui, je pense que cette question qui était cachée, elle devient visible et prégnante pour plus de gens. Donc notre action, elle est évidemment, on était le 21 septembre, pas nombreux à Marseille dans la manif pour la paix, mais je crois que ce qui peut payer dans ce cas-là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'être présent à chaque initiative sans arrêt poser les questions de la paix, sans arrêt pour dire qu'on refuse la militarisation de l'économie et appuyer aussi toute lutte sociale en ayant bien en tête que chaque euro arraché au patronat et donc par voie de conséquence au complexe, à la politique gouvernementale, eh bien chaque euro arraché, que ce soit pour l'emploi ou les salaires, c'est un euro de moins pour la militarisation de l'économie. Alors vous allez me dire, oui, mais le patron de casino, il n'a rien à voir avec les choix de Macron. Mais si, il a à voir. Si, il a à voir. Si on a une inflation aujourd'hui, c'est bien parce qu'il faut payer le coût de l'armement. La seule industrie que la France n'a pas délocalisée en aucune façon, c'est l'industrie militaire. Au moment où on se parle là, le seul endroit, le seul secteur où se créent des emplois, de façon conséquente, je ne dis pas qu'il n'y a pas un emploi chez un même boulanger qui va se créer, hein, mais je parle des emplois de façon conséquente dans l'industrie, c'est dans l'industrie de l'armement. Saint-Étienne, qui fut par le passé manufacture d'armes, redevient aujourd'hui une ville, en tout cas c'est le projet de ceux qui nous gouvernent, de redevenir une ville d'armes, de redevenir une ville où on fabrique des chars, où on fabrique des fusils, etc. Donc, Je dis ça parce que je pense à nos camarades de l'ANC de la Loire, là, qui se battent contre la militarisation de l'économie, y compris en termes d'emploi dans leur région. Donc voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... mais on a un gros travail d'information, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, mais parce que quand on en parle avec les gens et qu'on leur donne des chiffres, beaucoup ne le savent pas. Je vois Daniel qui me fait des signes. Oui, beaucoup ne le savent pas et ils ne l'imaginent pas. Quand on leur dit que la France va recruter 100 000 réservistes, c'est pour quoi faire? C'est pas pour aller garder les moutons ou planter des tomates. Hein. Des réservistes, c'est pour l'armée, c'est pour la guerre. Donc, effectivement, ce que j'étais il n'y a pas longtemps dans une réunion hors du département, là, il y avait des enseignants qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, les écoles, elles sont appelées à signer de plus en plus de partenariats avec l'armée, et l'armée intervenant en disant « mais militaire, c'est un métier d'avenir ». Et avec notamment des visites organisées d'installations militaires, où ce sont les militaires qui se réservent le droit. D'abord, c'est eux qui font le contenu de la visite, non seulement les choses à voir, mais le contenu. Donc là, les enseignants, ils sont à la ramasse. Mais en plus, l'armée se réserve le droit d'accueillir ou pas un élève lors de ses visites en fonction des positions de ses parents pour ou contre la guerre. Vous voyez, on est en pleine démocratie. Et évidemment, il y a cette remise sur pied du SNU, là, le Service National Universel, qui est en fait quelque chose qui peut servir à accélérer la militarisation de l'économie et l'intervention armée de la France dans divers pays du monde. Donc on est là, on n'est pas du tout dans le contexte de défense nationale, il n'y a personne qui nous attaque à la France, hein. On est dans le contexte d'attaquer les autres et de participer à un conflit mondial. L'Allemagne et la France se font la bourre sur les fabriques d'armes, ils vont coopérer pour une part. On a un regain de la militarisation. Quand on dit militarisation de l'économie, c'est pas une vue de l'esprit, comme tout le monde peut regarder aujourd'hui sur Google dépenses militaires par habitant. On verra comment ça grimpe et quels sont les pays qui s'arment le plus. Voilà ce qu'on essaye de faire au plan. Et on l'a fait à chaque fois, mais on va continuer à se battre chaque fois sur cette question de la paix, de la guerre et de la militarisation de l'économie et du combat pour la paix, y compris pour le progrès social. On a une réunion prévue à Toulouse, on en a d'autres prévues ailleurs, enfin à Montpellier. On lâche pas, il faut absolument qu'on arrive à sensibiliser à cette question-là. Et dedans, d'ailleurs, on pourrait revenir sur la Palestine, mais voilà, on est au cœur de ça.
Et alors justement, tu me permets d'enchaîner. Tu évoquais tout à l'heure, plus avant dans l'émission, la Palestine et la présence de l'ANC à la Fête de l'Humanité de cette année. Je sais que les questions de la Palestine ont largement été évoquées cette année, notamment à travers la question de la libération de Georges Ibrahim Abdallah et la présence de Salah Hamouri. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces deux personnes?
Alors oui, tu as raison, parce que peut-être il faut encore les présenter. Salah Hamouri, je ne sais pas combien de fois il a été emprisonné. Ce que je sais, c'est que chaque fois qu'il a été libéré, voilà, on a pu le voir discuter avec lui, notamment à la fête de l'UMA. Salah Hamouri, c'est un avocat franco-palestinien qui se bat pour les droits du peuple palestinien et contre l'entité sioniste, qui est une entité occupante. Et donc, il a été expulsé, je ne sais pas comment il faut dire le terme, mais en tout cas, foutu dehors de son propre pays, parce qu'il dérangeait, parce qu'il défendait les droits du peuple palestinien, qui maintenant est en France, et continue son combat en tant qu'exilé pour que la Palestine ait le droit à exister. Donc ça là, effectivement, on l'avait vu au printemps dernier, vous en rappelez ici, il y avait une initiative unitaire qui s'était faite, qui s'était tenue avec un rendez-vous à la Bourse du Travail, entre autres. Là, ben, on s'est recroisé alors en vitesse parce qu'il était très sollicité, c'est tant mieux à la fête de l'UMA. Et de toute façon, il fait partie de ses camarades qui vont nous aider. Il sera présent à la fête de l'ANC, c'est sûr. Et on verra avec lui qu'est-ce qu'on fait au plan international pour justement pour la plateforme. Concernant Georges Ibrahim Abdallah, je pense que les auditeurs de Radio Galère connaissent l'histoire, hein. Ça va faire, le 24 octobre, ça fera 40 ans de prison. on bat des records pour quelqu'un qui est libérable depuis 24 ans maintenant, puisqu'il est libérable depuis 99. Et pour des faits qui n'ont jamais été prouvés, ni... on a même tendance à croire que ça a été complètement bidon, et ce que dit l'ancien directeur de la police. Donc, Georges, pour dire la vérité, pendant des années, son cas a été négligé, pour pas dire ignoré. Voire, chez certains, c'était plus que de l'ignorance, c'était un refus du soutien. À la fête de Dumas, je fais partie de ceux qui, depuis des années, je ne suis pas du tout le seul. Moi, j'ai été alerté par une association de soutien à la Palestine. Je croyais que Georges avait été expulsé au Liban. Je parle de ça en 2005. Donc je fais partie de ceux qui, à la fête de Dumas, entre autres parce que c'est un moment où il y a des centaines de milliers de personnes qui passent, que ces personnes-là, souvent, elles sont au moins pas hostiles aux idées de progrès, au minimum. Donc, c'était un lieu où on pouvait parler de Georges. Alors, pendant des années, on s'est heurté soit à l'indifférence des organisateurs, voire parfois un peu l'hostilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on a persévéré. Et d'année en année, la question de Georges est devenue plus présente, notamment grâce à des associations de défense de la Palestine, grâce au Parti communiste du Liban et grâce à l'ANC. Et là, ça entre dans les détails, on a fait ce qu'il fallait malgré tout. Et là, cette année, on a franchi un cap nouveau, dans le sens qu'il y a eu pour la première fois depuis que la fête de l'humain existe et que Georges est en prison, donc pour la première fois depuis 1984, il y a eu un grand débat public pendant la fête de l'humain, où il était au présent à la tribune trois camarades, alors deux du collectif des Hautes-Pyrénées pour la libération de Georges, Daniel et José, moi-même pour... On n'est même pas allé avec l'étiquette, même si je suis président de l'ANC. Je rappelle que Georges Ibrahim Abdallah est le président d'honneur de l'ANC. Et qu'il n'a pas accepté ça comme ça, sans rien me dire. Il a regardé tous nos écrits avant d'accepter de l'être. Et puis, avec André Chassaigne, le député d'Auvergne, là. Donc, on était tous les quatre à la tribune. Donc, effectivement, c'était pas une salle, c'était le chapiteau était rempli. Et Chassaigne a eu l'honnêteté de dire, on doit faire preuve d'humilité. Moi, je n'ai pas fait ce qu'il faut pendant toutes ces années. C'est lui qui le dit et c'était assez touchant de l'entendre dire ça. Et je pense que Chassaigne, qui est allé voir, parce que ça fait des années qu'on le poussait, il est allé voir Georges cet été, le 12 août, à Lannemezan. Il a été bouleversé par le bonhomme, quoi. Non seulement de le voir en prison, mais de voir la profondeur de ce type, sa lucidité, son... Donc, le débat a eu lieu avec... on a eu la surprise, pendant le débat, d'entendre... d'avoir un coup de fil de Georges à Chassaigne. Donc, vous imaginez un peu l'ambiance dans le chapiteau, avec des centaines de personnes qui se lèvent, qui crient... tes camarades sont là, enfin, c'était un moment très bouleversant et un moment historique aussi. Le débat était animé par Pierre Barbancé, qui est, selon moi, en toute partialité, un des deux journalistes les plus pertinents, les plus documentés et les plus informés sur le Moyen-Orient, c'est avec Alain Gresh, quoi. Lui et Alain Gresh, c'est pour moi les deux références sur le Moyen-Orient. Et donc, effectivement, le débat, alors c'était même pas un débat, c'était chacun qu'on a complété notre... On a eu le sentiment de vivre quelque chose d'historique et d'avoir la possibilité que cette année, la manifestation nationale qu'on fait tous les ans depuis je sais pas combien d'années, à Lannemezan pour la libération de Georges, elle prend une ampleur inégalée. Donc, en ce qui concerne l'ANC et les Bouches-du-Rhône, puisque sur le plan national, on s'organise aussi, mais il va y avoir au moins un quart, sans doute deux, et on va voir si on explose le chiffre, tant mieux. Donc, pour le moment, il y a des inscriptions qui sont à faire. Alors, il y a des affiches, c'est, vous pouvez regarder sur les pages Facebook. Sinon, vous écrivez à organisation@anccommuniste.fr. Je dis bien organisation@anccommuniste.fr. Et là, vous aurez, vous pouvez vous inscrire pour le CAR. Alors, le CAR, il n'est pas gratuit. Hein. Le CAR, il partira à 5h30 de la gare Saint-Charles. Il s'arrêterait à Martigues, Avignon. Et on va voir comment on fait pour les villes comme Montpellier, Narbonne sur le passage. Donc ça, c'est en coordination avec les autres groupes ANC et Palestine de France. Mais pour le moment, on a la chance que l'UDCGT 13, elle s'est à fond engagée dans cette lutte-là. Donc elle aide au financement du CAR. Il faut savoir que même en tirant les prix, hein, une place pour l'Anne Mezin, c'est en CAR, c'est 48 euros aller-retour. Hein. Donc vous imaginez que c'est pas la NC avec ce petit bras musclé qui peut payer ça pour tout le monde. Donc on demande aux camarades de financer comme ils peuvent et puis aux organisations de financer, d'aider au financement de leurs participants. Quoi. Donc voilà, en tout cas, on a ce départ qui est prévu samedi matin. Et ça, c'est pour tous ceux qui peuvent y aller. Parallèlement, l'ANC a proposé, on l'a proposé à la fête de l'UMA, avant même d'en discuter entre nous. Bon, je me suis laissé un peu emballer, moi. Mais on va sortir des adhésifs. Vous savez, on l'avait déjà fait pour l'anniversaire de Georges, ça, il y a le 2 avril, il y a deux ans, de renommer toutes les rues de France. Vous savez qu'il y a des noms de fachos comme Thiers, comme Bugeaud, comme Cavagnac. Nous aussi, on a ici, là, à côté, on a deux rues de fachos, là, à côté. Là, de les renommer rue Georges Ibrahim Abdallah ce 21 octobre. C'est-à-dire que tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'Anne Mezin, il y ait des rassemblements partout en France pour renommer partout en France des rue Georges Ibrahim Abdallah. Donc ça, c'est la décision est actée. Franchement, des premières réactions que j'ai, tout le monde est enthousiaste à faire ça. Donc voilà, on est entré, nos plaques sont à l'imprimeur, là, et dès qu'on les a, on les envoie. Alors je dis on, parce que ça va partir de Marseille, on les envoie partout en France, au groupe avec qui on l'avait fait l'an passé, il y a deux ans, puis avec les nouveaux groupes qu'on connaît, et puis les autres forces, hein, on va le proposer. Vous voyez, par exemple, j'ai appris que l'UDCGT du Nord envoyait une délégation à l'Anne Mezin de trois camarades, dont le secrétaire général de l'UD. Alors c'est symbolique et forte. Évidemment, on va envoyer des plaques de rue à l'UD du Nord. Quoi. Voilà. On va les envoyer à toutes les UD, CGT de France qui sont parties prenantes de la bataille, à toutes les organisations politiques qui sont parties prenantes de la bataille. Je précise qu'à ce débat à Paris, il est arrivé comme ça au milieu, enfin, dans l'assistance, Éric Coquerel, le député de la France insoumise, et que Chassaigne lui a donné immédiatement la parole pour qu'il réaffirme son soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Éric Coquerel fait partie des 18 députés de la NUPES qui ont signé l'appel à la libération de Georges. 18 sur 150. D'ailleurs, il a dit à la tribune de l'UMA, il a dit, mais il faut que les 150 députés signent. Vous voyez, si on n'a que 18 sur 150, il y en a peut-être qui n'ont pas vu passer le papier, il y en a peut-être qui traînent des pieds. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à ça. Et puis même, je pense que sur des questions comme ça, quelqu'un qui est tout simplement, même s'il n'est pas de gauche, même si je ne sais pas ce que ça veut dire de gauche, même s'il n'est pas de la NUPES en tout cas, il pourrait dire, mais au nom de la liberté et des droits humains et du droit international, je suis pour la libération de Georges. Donc on pourrait avoir une majorité de députés qui signent ça s'ils n'étaient pas anti-palestiniens et anti-communistes et inféodés au sionisme, puisque c'est quand même Israël et les États-Unis qui bloquent pour la libération de Georges. Voilà, donc ça c'est sur la Palestine. Et donc d'ailleurs, dans la foulée de ça, je dois dire qu'il y aura des initiatives, mais ça je pense que toi tu donneras plus facilement que moi.
Alors oui, moi je voulais faire un petit point des prochains rassemblements et événements qui vont avoir lieu sur Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Alors à vos agendas, ça commence à partir de demain, le 28 septembre à 19h. Il y a un rassemblement au niveau de l'Ombrière au Vieux-Port. C'est un rassemblement pour affirmer le droit des femmes à disposer de leur corps et affirmer le droit à l'IVG. D'autres rassemblements sont à venir, notamment à l'appel du Comité international de soutien aux femmes afghanes. Ça sera le 7 octobre à partir de 14h, place Bargemont. D'autres rassemblements qui vont se suivre le 12, le 13, le 14 octobre, c'est plutôt les collectifs palestiniens qui sont à l'initiative et en lien avec l'UD13. Notamment, le 12 octobre, il y a un appel à midi à la Maison des syndicats de Martigues pour la libération de Georges Ibrahim et appelé aussi à aller à Lannemezan le 21 octobre. Pour compléter les explications sur ce qui se passe en Palestine, le 13 octobre, il va y avoir une conférence de Mariam Aboudaka à 18h à la Maison du Tourisme, également à Martigues. C'est une résistante et une combattante pour les droits des femmes palestiniennes et pour dénoncer ce qui se passe dans les prisons en Palestine. Si vous n'êtes pas disponible pour aller à Martigues le 13 octobre, il y a la possibilité de rencontrer Mariam Aboudaka à Marseille, au centre Mistral 11 impasse Flammarion. Ça, c'est le 14 octobre à partir de 14h. Pour avoir plus d'informations sur ces prochains événements et rendez-vous, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de ancommuniste.org ou assopalestine13.org. Enfin, un événement à confirmer prochainement, le 12 octobre également. Alors là, effectivement, le mois d'octobre commence déjà à être bien rempli. C'est l'annonce de la venue de Saïd Bouamama à Marseille pour nous parler de ce qui se passe dans les quartiers populaires en France et nous parler de la lutte en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Très certainement que les événements vont se compléter et que l'agenda sera encore plus chargé dans les mois à venir. Mais nous n'hésiterons pas à repasser à la radio pour vous présenter tout ça. Je laisse Charles conclure.
Mais écoutez, la conclusion, elle est simple. Hein, c'est que, je disais, notre première tâche en démarrant, c'est de combattre l'impérialisme français. Il faut le combattre quand il se manifeste en Afrique. Il faut le combattre quand il se manifeste dans son soutien à Israël. Il faut le combattre quand il se manifeste par son agressivité vis-à-vis de la Chine et quand il est dans sa passivité vis-à-vis de ce qui se passe en Amérique du Sud. En fait, c'est clair, hein, on a aujourd'hui... Chavez avait parlé de ça déjà en 2010 à Copenhague. Il y a 35 pays qui veulent dominer le monde. C'est, la France veut en faire partie. Alors, c'est intéressant de noter que quand ils ont voulu créer l'Union européenne, ils ont dit que c'était pour être indépendant des États-Unis. Non seulement ils ne sont pas indépendants, mais ils sont de plus en plus valés. Ça se voit dans la guerre en Ukraine. Depuis que l'Union européenne s'est créée, à la fois on assiste à une montée en puissance d'autres forces que celles d'Amérique du Nord et de l'Union européenne, mais aussi à l'intérieur de ce bloc Europe-Amérique du Nord, on assiste à un pouvoir croissant en termes de PIB des États-Unis dans le bloc. C'est-à-dire que non seulement la France n'est pas indépendante militairement, mais en plus, elle est de plus en plus dépendante économiquement des États-Unis. Sur tout ça, ça peut paraître complexe. Sachez que, voilà, on avait depuis des années créé un organisme de fin. Une association d'éducation politique populaire qui s'appelle le Cercle Manouchian. Alors le cercle, parce que là, dans le cercle, il n'y a pas de sommet. Et parce que Manouchian, parce qu'en référence aux résistants, et on l'avait créé sous Sarkozy en disant on est en résistance là, et la question de l'immigration, elle va être au centre du combat. On ne s'est pas trop trompé quand on voit ce qui se passe dans les derniers développés. Et bien donc, ce cercle manouchien, lui, il va faire... il est maintenant national. Son président, c'est d'ailleurs Saïd Bouamama. Et aujourd'hui, donc, on est en train de mettre en place un programme national. On va avoir une réunion d'information sur ce programme-là de courant novembre. Mais sans attendre, on va avoir... Parce que les formations vont démarrer de janvier à juin. Mais sans attendre, disons, dans ce trimestre-là, on va avoir plusieurs soirées thématiques, tant sur l'impérialisme que sur la Palestine, que sur des sujets qui touchent à ce qu'on vient d'aborder. Je voudrais finir parce que, sans en rajouter une couche, je fais partie des gens qui trouvent l'attitude de ce qu'on appelle la gauche très minable en ce moment. Je tiens à le dire. Pendant qu'il y en a qui se disputent comme des chiffonniers ou des enfants dans le bac à sable d'une école sur tel mot qui a été dit par l'un et tel mot qui a été repris par l'autre. Ce qui est grave, c'est que des questions comme l'immigration, le lien entre immigration et insécurité fait aujourd'hui presque l'unanimité de l'extrême droite à la gauche. Je n'ai pas développé les exemples, mais on pourrait y revenir. Moi, j'ai entendu des propos qui sont, que ce soit sur la fermeture des frontières à l'université d'été du PCF, que ce soit avec les OQTF, vous avez les obligations de quitter le territoire français par Ruffin. C'est un recul monumental sur les idées et sur les droits humains. Et c'est même pitoyable que ce soit le pape qui se retrouve à l'extrême gauche de ces dirigeants-là, tellement ils se sont font gagner, gangrénés par les idées de repli nationaliste et de suprémaciste blanc. Je pense que c'est... Je ne dis pas qu'un tel est devenu doriotiste ou hitlérien ou nazi, mais je dis que les thèses de l'extrême droite, elles gangrènent notre gauche dans un monde où les pays du Sud réaffirment leur opposition à l'impérialisme. Et que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et au lieu de voir la main de Poutine de partout, essayer de voir la main des peuples qui veulent s'en débarrasser. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine.
Rappel, il y a aussi cette manifestation du samedi qui suit pour...
Il vient tout juste pour nous dire.